Durant cette fin de siècle, Debussy travaille à ce qui va constituer l'un des sommets de son œuvre, Péléas et Mélisande. À l'origine, il s'agit d'un drame, écrit par le poète belge Maurice Maeterlinck, que le musicien a découvert à la librairie Flammarion.
C'était lors d'une de mes flâneries habituelles. Dès les premières pages, je fus bouleversé par ce que je lisais. J'avais trouvé le poète que je cherchais depuis longtemps, mon frère en inspiration. À quelque temps de là, j'assistais à une représentation de la pièce de Maeterlinck au Théâtre des Bouffes parisiens, et mon désir d'en faire un opéra en fut encore renforcé. Maeterlinck lui-même ne croyait pas beaucoup dans le succès de l'entreprise, d'autant qu'à l'époque, j'étais encore un musicien ignoré du grand public.
Je suis d'accord pour que vous mettiez Péléas et Mélisande en musique, puisque vous semblez tellement y tenir, mais je vous avoue franchement que je vois mal ma pièce transformée en opéra.
Bien au contraire, la musique fournira à votre œuvre le cadre tragique dans lequel elle pourra pleinement s'épanouir. Elle sublimera vos personnages et en fera des héros.
Mais ne craignez-vous pas de faire un autre Tristan et Isolde? Wagner est déjà passé par là et après Wagner, que reste-t-il à dire?
Il reste les sentiments. Wagner a traité les sentiments avec une sorte de fureur bruyante. C'est pour ça que j'ai cessé de l'admirer. Au contraire, je rendrai aux sentiments leurs voix intimes, celles que l'on entend seulement quand le cœur bat très fort.
Voilà, voilà,
qui est là?
Moi, moi et moi. Que fais-tu là, la fenêtre, en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici?
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la fenêtre. Il fait trop chaud dans la tour. Il fait beau cette nuit.
Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Mais la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi un peu, que je vois tes cheveux dénoués.
Je suis affreuse ainsi.
Oh, oh, Mélisande. Oh, tu es belle. Eh ben ainsi, penche-toi, penche-toi, laisse-moi venir plus près de toi.
Commencé en 1893, l'ouvrage n'est représenté que le 27 avril 1902 sur la scène de l'Opéra Comique. Certes, il a fallu longtemps au compositeur pour donner à son œuvre son visage définitif. De plus, une querelle violente a éclaté entre lui et Maurice Maeterlinck. Ce dernier est marié à une actrice, Georgette Leblanc, qui se croit cantatrice, mais qui, hélas, ne l'est pas. Maeterlinck désire cependant qu'elle incarne le personnage de Mélisande, ce à quoi Debussy s'oppose avec force.
Non, non et non. Madame Leblanc ne sera pas Mélisande.
Et voulez-vous me dire pour quelle raison, je vous prie?
Parce qu'elle n'est pas le personnage. Elle n'a ni le reflet physique, ni le charme irréel, ni la poésie à fleur de lèvres que ma partition lui a prêtée. Cette interprète idéale, je l'ai découverte, grâce à André Messager, dont elle est une élève. Elle se nomme Marie Gardenne, et elle est écossaise.
Eh bien moi je vous dis que votre écossaise ne jouera pas l'ouvrage. Je préférerais en interdire la représentation.
Maeterlinck va en effet jusqu'à faire un procès à Debussy, qu'il perdra d'ailleurs. Mais le soir de la générale, les amis du poète montent une cabale dans la salle de l'Opéra Comique, se répandent en vociférations, et il faut tout le sang-froid de Messager, qui dirige l'orchestre, pour que la représentation aille jusqu'à son terme. En dépit de cette campagne et du scandale qui s'ensuit, en dépit aussi de certains critiques que la musique nouvelle de Debussy désoriente, l'ouvrage n'en connaît pas moins un vif succès qui n'a jamais cessé depuis de se renouveler. Debussy lui-même ne s'offusque pas d'être incompris parfois. Avec cet humour dont il use volontiers, il écrit à son ami Chausson, musicien célèbre lui aussi.
Vraiment, la musique aurait dû être une science hermétique, gardée par des textes d'une interprétation si longue et si difficile qu'elle aurait certainement découragé le troupeau de gens qui s'en servent avec la désinvolture que l'on met à se servir d'un mouchoir de poche. Au lieu de chercher à répandre l'art dans le public, je propose la fondation d'une société d'ésotérisme musical.
Boutade, évidemment, que ce désir du musicien de demeurer incompris. Et cet extrait de L'île joyeuse que vous venez d'entendre est là pour vous démontrer que son langage musical est au contraire d'une limpidité parfaite. D'ailleurs, le scandale artificiel qui a entouré Péléas et Mélisande a servi la popularité du compositeur. À présent, même ses plus farouches détracteurs sont obligés de compter avec lui. Si c'est d'abord auprès d'un public de jeunes que Debussy a trouvé ses plus fervents admirateurs, il est maintenant admis dans les cercles officiels. Le voici membre du jury du Grand Prix de Rome, dont il fut le lauréat 20 ans plus tôt. Un peu plus tard, il est nommé membre du Conseil supérieur de la musique et fait chevalier de la Légion d'honneur. Décoration qu'il accepte, alors que Maurice Ravel, lui, la refusera. En même temps que sa réputation est consacrée, sa production musicale est toujours aussi brillante. C'est ainsi qu'au mois de mars 1905, la partition de « La mer », sur laquelle il travaillait depuis 2 ans, voit enfin le jour. Naturellement, une fois de plus, les sonorités nouvelles de la mer ne sont pas du goût de tout le monde. Certains musicologues accusent Debussy de se copier lui-même. Toujours avec esprit, dans une lettre à son ami André Messager, Debussy répond à ses détracteurs.
Quant aux personnes qui me font l'amitié d'espérer que je ne pourrai jamais sortir de Péléas, elles se bouchent l'œil avec soin. Elles ne savent donc point que si cela devait arriver, je me mettrais immédiatement à cultiver l'ananas en chambre, considérant que la chose la plus fâcheuse est bien de se recommencer.